Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Dans nos podcasts habituels, on discute environ une demi-heure à deux d'une thématique en lien avec le libéralisme. Pour aller plus loin et pour démarrer une autre série, nous donnons désormais la parole à des gens qui, comme nous, souhaitent défendre la liberté. On essaie de voir avec eux comment ils le font, mais également pourquoi et finalement avec quels outils ils s'engagent pour défendre la liberté.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare.
Dans nos deux premiers épisodes, on a rencontré un directeur de think tank et un professeur. Ils ont pu nous expliquer comment ils s'engageaient pour la liberté. Dans le troisième épisode, on rencontre un entrepreneur qui est actif donc dans le monde de l'entreprise. Il pourra nous expliquer comment est-ce que la liberté imprègne son travail au jour le jour et pourquoi la liberté l'a motivé à devenir entrepreneur. Et quel est le rôle de cet entrepreneur dans un cadre libéral?
Pour commencer, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter et nous expliquer votre projet?
Donc, je m'appelle Arnaud Salomon, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Mopelerin. Originellement, moi, j'ai grandi dans différents pays dans le monde quand j'étais enfant. J'ai atterri à Lausanne à 17 ans pour étudier à l'EPFL parce que j'ai une mentalité très forte d'ingénieur. C'est mon ADN, on va dire. Mais j'ai fait toute ma carrière en finance, essentiellement dans le trading. Et puis maintenant, il y a 4 ans en arrière, on a démarré cette entreprise qui, évidemment, est basée sur des valeurs assez fondamentales, sachant que moi, j'ai commencé ma carrière en 2007-2008. Donc c'était vraiment le moment de la crise économique en qualité de trader junior. Et c'est vrai que quand on est ingénieur, on cherche à démystifier, on cherche à comprendre. Puis cet univers du trading est extrêmement mystique. Et puis c'est là où on se rend compte qu'en fait, peu de gens se posent des questions. La première, par exemple, qu'on pose quand on arrive, c'est quoi l'argent? Pourquoi ça porte un taux d'intérêt? Et puis pourquoi ce taux d'intérêt, il est décidé par un planificateur central et pas par le marché, contrairement à tout le reste? Puis en fait, on se rend compte que les gens autour de nous, nos collègues, les stars, ceux qu'on admire, en fait, ils ne se sont jamais posés ce genre de questions. Et c'est là où finalement, ça entraîne à avoir des lectures, on va dire, un petit peu libertariennes, basées sur ces économistes, ces disrupteurs de leur temps, hein, Frédéric Hayek, Ludwig von Mises, etc. Et puis c'est comme ça qu'en fait, tout a commencé. Voilà, la découverte de Bitcoin en 2012, qui a été une grosse claque pour moi. Comment est-ce qu'on crée de la valeur à partir de la confiance. Et puis voilà, puis c'est à partir de là que tout a commencé. Mon Pèlerin, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un projet. Et c'est un projet de faire une nouvelle banque, basée à Genève, évidemment, sur des valeurs fondamentalement différentes. Donc déjà d'une, on veut faire une banque qui est full réserve. L'idée fondamentale est de dire qu'en aucun cas, on va prendre du risque sur ton argent pour notre propre profit. Donc, on te garantit que, quoi qu'il arrive, on traversera les âges parce qu'on ne sera jamais investi sur les marchés, on ne sera jamais à risque. En revanche, évidemment, si tu veux obtenir un yield, si tu veux obtenir un rendement sur ton épargne, alors il va falloir que tu achètes ton risque. Il va falloir que tu choisisses dans quoi tu veux être investi. Est-ce que je veux être investi dans l'économie locale, dans l'économie globale, dans tel ou tel secteur, les choses que je veux, les choses que je ne veux pas? Mais tu choisis, toi, en ton âme et conscience, dans quoi tu veux être investi. Et tu achètes ton risque. Donc c'est toi qui choisis délibérément et tu ne le délègues pas ça à un banquier qui lui va le prendre pour son propre profit et te laisser un micro rendement pour toi. Donc c'est toi qui prends l'essentiel du rendement, tu payes une commission à la banque parce qu'elle te met à disposition des outils et ça c'est le concept de base de ce qu'on appelle des marketplaces. Et puis fondamentalement, évidemment vu que je suis ingénieur, on a développé toute une plateforme technologique extrêmement novatrice par rapport à ce sur quoi tournent les banques actuelles, ce qu'on appelle les core banking systems. Et c'est là où on pense qu'on a vraiment révolutionné cet univers bancaire en réduisant massivement les coûts opérationnels, qui aujourd'hui sont quand même assez énormes au sein des banques, au travers de moteurs de règles. Et on utilise une technologie qui s'appelle la blockchain pour rendre aux gens la propriété s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent être libres, s'ils souhaitent prendre, être en full custody de leurs actifs, alors ils le peuvent. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Certains vont vouloir le déléguer à la banque et c'est le principe de ce qu'on fait.
Quelle est votre définition ou votre vision de la liberté?
La liberté, en fait, c'est l'idée fondamentale que chacun vit selon un contrat social qui lui est propre. C'est vertueux si on ne l'impose pas aux autres, en fait. Et nous, on est très fans de la décentralisation. Et la décentralisation, ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire aussi l'humilité. Personne n'a de solution universelle. Et laisser les gens se regrouper dans des univers, dans des idées qu'ils partagent, sans l'imposer, sans violence, quelle qu'elle soit, de quelle nature qu'elle soit.
Pourquoi est-elle essentielle dans nos sociétés ?
C'est essentiel pour obtenir la prospérité et le bonheur. C'est une société libre et prospère et rend les gens heureux. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel. Mais si on regarde fondamentalement, c'est aussi une question de morale. Quand on prend un enfant, c'est presque une loi naturelle. Il comprend ce qui est injuste. On n'a pas besoin de lui inculquer. Cette idée que le héros vient aider les faibles, etc., c'est des choses qu'il comprend naturellement. On n'a pas eu besoin de le lui expliquer. Et cette règle d'or, on la retrouve dans pratiquement toutes les cultures, les religions, c'est « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ».
Pourquoi avoir choisi la forme de l'entrepreneuriat comme engagement et pas une autre forme ? Ou est-ce que l'entrepreneuriat est une forme d'engagement pour la liberté ?
Pas nécessairement, non. Mais par contre, c'est effectivement une certaine indépendance intellectuelle de la pensée. Le principe fondamental pour un entrepreneur, pour réussir, c'est de désobéir. Il faut réfléchir dans cette idée qu'on n'est pas forcément conformiste et on est libre sans se conformer, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Et c'est ça qui fait toute la différence. Dans une certaine mesure, néanmoins, on est moins libre quand on est entrepreneur parce qu'on a une très grande responsabilité. Lorsqu'on a des employés, on est responsable de ces employés. On n'est plus dans cette... On n'est plus finalement oisif, on devient réellement responsable de faire avancer les choses et puis on y met notre nom, on y met notre cœur, on y met notre temps, on y met en général beaucoup beaucoup de temps, notre argent évidemment, et donc forcément ça, c'est quelque part, c'est pas forcément créateur de liberté. Enfin, parfois on se rend compte que l'entrepreneur a moins de vie sociale, a plus de pression, a plus de stress, etc. etc.
De manière positive, qu'est-ce que l'entrepreneuriat permet que le salariat ne permet pas?
C'est exactement ça. C'est vraiment l'idée qu'on n'a plus besoin de se conformer. C'est cette liberté qui implique cette responsabilité, qui implique de prendre des risques. Et c'est grisant. C'est grisant parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose parce que quelqu'un d'autre pense que c'est juste, mais on le fait parce que nous-mêmes, on est convaincus de ce qu'on fait. À partir du moment où on essaye de bousculer un certain ordre établi, il y aura toujours des oppositions, des gens qui vont mettre les deux pieds et les deux mains en avant. Mais en même temps, c'est pas grave, parce que le principe, il est qu'on fédère autour de nous des gens qui partagent les mêmes idées. C'est ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs quand on cherche à employer des gens, quand on est dans ce type d'entreprise. Finalement, nous, on n'a jamais cherché, par exemple, des employés. C'est toujours des gens qui sont venus à nous parce qu'ils partageaient les valeurs, les idées qu'on défend. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement puissant de ce point de vue. Nous, on a quand même des valeurs qui sont quand même parfois un petit peu extrêmes, puisque notre position est que l'argent et l'État devraient être absolument séparés, que la prérogative monétaire ne devrait pas être celle d'un acteur central, d'un planificateur central, mais devrait être quelque chose de libre et au marché d'y adhérer. Surtout quand on voit aujourd'hui que l'État est plus ou moins irresponsable sur ces questions-là.
Dans un autre podcast, on a parlé de la figure de l'entrepreneur. Que représente cette figure pour vous, dans votre imaginaire ? Et est-ce que vous avez toujours rêvé de devenir entrepreneur ?
Je ne suis jamais spécialement imaginé ça. C'est un rêve, parce que c'est quelque chose d'excitant de créer, de produire, d'amener quelque chose auquel d'autres gens adhèrent. C'est sûr que ça fait partie des choses qui animent l'entrepreneur, mais c'est aussi de donner les moyens à d'autres d'être objecteurs de conscience, de opt-out finalement de ce dans quoi ils se sentent enfermés. Aujourd'hui, surtout si tu es dégoûté par cette société qui valorise la dette irresponsable, nous on offre une alternative.
Considérez-vous que votre activité est intrinsèquement liée à vos convictions ?
En fait, c'est vraiment parce que je pense qu'initialement, j'ai toujours eu cette recherche de liberté. J'ai souvent été un petit peu désobéissant dans ma vie. J'ai souvent cherché à on va dire, challenger le statu quo. Et c'est ça qui m'a amené à l'entrepreneuriat. C'est quand on constate les inefficiences, quand on constate les, les, l'inactivité, quand on constate que certaines personnes sont assises sur de l'histoire, c'est-à-dire que parce que je suis là, j'y resterai toute ma vie et puis je suis indéboulonnable, quand on constate que parfois, je dis bien, c'est pas les plus méritants qui obtiennent les plus hautes positions, forcément que ça pousse, quand on a cette envie, cette recherche de liberté, à prendre les devants et puis de se dire, ben, je vais prendre un lead, je vais tirer des wagons avec moi et puis qui veut s'accrocher dessus est le bienvenu. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de dire que tu es ton propre monarque. Tu n'as pas besoin de couper des têtes pour ne plus suivre le souverain. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la question technologique, parce qu'aujourd'hui, la technologie nous amène à des possibilités qui n'étaient pas aussi possibles dans le passé, ne serait-ce que la communication, ne serait-ce que Internet, ne serait-ce que aujourd'hui, c'est Internet, c'est cette imprimerie 2.0, quand on regarde Wikipédia, qui est infiniment plus puissant que l'Encyclopédie Britannica, qui est écrit par 7 sages, qui en a science infuse sur tous les sujets. C'est cette idée de la technologie, de la décentralisation, est extrêmement puissante, et puis du coup, il n'y a pas besoin de révolution collective pour parvenir à changer le monde.
Tu parles vraiment de décentralisation, de concurrence, des modèles. Comment est-ce que ces idées-là se traduisent même au sein même de ton entreprise ?
Alors évidemment, comme toute entreprise, on a une certaine forme de centralisation. D'ailleurs, on est dans les bureaux ici, donc quelque part, voilà, il y a des gens qui travaillent dans un même endroit, même si on est tout à fait équipé, d'ailleurs, pendant cette période un peu troublée, pour que chacun puisse travailler à la montagne ou de chez soi en ville, etc. Nous, on a un système qui est très flat en termes de hiérarchie, c'est pas quelque chose qui est vraiment existant, la hiérarchie. On est une petite équipe, donc c'est facile, non, forcément, à mettre en œuvre. Tout le monde est chef de son propre département, mais quelque part, personne n'a vraiment d'employé dans son département, donc tout le monde doit se débrouiller pour faire tout ce qu'il a à faire pour mener à bien ces projets qu'on a en interne, puisque chaque, finalement, individu a ses propres projets. Et c'est des choses qu'on discute ensemble, quelles doivent être les étapes d'après, et qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'alors, et comment on va y parvenir. Et c'est des décisions qui sont en général relativement collégiales, bien que chacun dans son univers est libre de le mettre en œuvre selon sa philosophie, sa pensée, ou ce qu'il imagine être la meilleure façon de l'exécuter. Nous, on a un motto, c'est que la méthodologie ne compte pas à nos yeux, c'est-à-dire que c'est à chacun de se l'inventer, sa méthodologie, ce qui compte, c'est le résultat. Donc le but, il est vraiment de poser des objectifs, et puis chacun, dans la recherche d'aller vers l'objectif, est libre d'y parvenir comme il lui semble le plus adéquat, évidemment dans la limite de ce qu'on a comme capacité, c'est-à-dire si on doit embaucher quelqu'un, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce qu'on a les budgets pour, etc. Donc voilà, on définit un cadre et on définit un objectif. Et après, on n'impose pas de méthodologie, et c'est pas comme dans certaines entreprises où quand on rejoint, on demande à la personne de surtout pas réfléchir, c'est-à-dire on lui explique qu'il y a un Excel là, il y a une base de données ici, il faut que tu copies les datas là, il faut que tu fasses ça comme ça, et puis surtout, il faut jamais que tu t'éloignes du process. Donc nous, on n'est pas dans une entreprise de process, on est vraiment dans une entreprise d'objectif.
Tu as évoqué le fait avant que vous n'aviez jamais vraiment recruté des gens, mais que c'est avant tout des profils qui s'annonçaient à vous. C'est plutôt des gens qui sont intéressés par le défi technique de votre entreprise, ou par l'aspect philosophique, ou toujours les deux.
Alors, globalement, presque tout le monde chez nous est effectivement dans cette recherche de vouloir, changer le monde, parce que c'est clairement quelque chose qui anime tout le monde dans l'équipe. Les gens ont quitté des jobs extrêmement bien payés en banque pour se retrouver en start-up, donc avec du risque, avec un salaire bien inférieur évidemment, des bonus inexistants au démarrage. Voilà, donc les gens, quand ils font ce choix-là, ils font ce choix parce qu'ils ont une conviction personnelle de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent achieve dans leur vie. Au-delà évidemment du fait que forcément c'est grisant, c'est aussi... c'est une grande récompense quand on voit que les choses avancent, quand on voit que ce qu'on a mis en œuvre est utilisé par d'autres. C'est sûr que forcément, ça donne une récompense personnelle qui est très forte.
Vous avez dit qu'il était important de séparer l'argent et l'État. Est-ce que vous pouvez développer cette idée et pourquoi c'est si important ?
Évidemment, puisque aujourd'hui, si on regarde cette idée d'avoir un planificateur central qui va décider de qu'est-ce qui est bien ou de qu'est-ce qui n'est pas bien...
Donc là, c'est la Banque Centrale, d'accord.
Voilà, typiquement la Banque Centrale. Et ben forcément, on y met des distorsions. On y amène. Puis ces gens qui décident, forcément, n'ont pas toutes les sensibilités de tout le monde. À la fin, ce qu'on constate, c'est que ce soit pour l'argent ou que ce soit pour des politiques économiques, à chaque fois qu'on y met un biais, ben on va forcément en léser d'autres. Donc après, il y a des lobbies de pouvoir qui vont chercher évidemment à se greffer pour être du côté de ben, « moi j'en tire un bénéfice ». Et au final, si on regarde cette idée que l'argent peut être imprimé, entre guillemets évidemment, ça ne compte pas, ça devient presque absurde au regard des impôts qu'on paye. Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on paierait des impôts en premier lieu si finalement il suffit d'imprimer de l'argent pour résoudre des problèmes? Et aujourd'hui, on vit dans une société qui récompense la dette, qui dit aux gens « mais endettez-vous et surtout ne faites pas d'épargne parce que le petit épargnant, lui, ben, forcément, à la fin, il va se faire avoir ». Si on met ça en perspective, donc ça s'appelle l'inflation, hein, il faut juste rappeler peut-être qu'on vit dans une expérimentation monétaire aujourd'hui. Hein, on appelle ça les devises fiduciaires. C'est quelque chose de relativement nouveau à l'échelle de l'histoire humaine. Une devise qui est finalement baquée sur la confiance qu'on y accorde et uniquement sur la confiance qu'on y accorde. Dans l'histoire, les gens n'ont jamais eu confiance dans l'État pour gérer la monnaie. Donc les gens ont toujours élu typiquement l'or ou l'argent comme le système monétaire. Parce que justement, on n'avait pas confiance dans l'État de gérer ça. Depuis 71, on vit dans une époque où les devises sont flottantes, les devises finalement ne sont plus baquées par de l'or, ou ne sont plus baquées par quoi que ce soit d'autre que finalement la confiance qu'on y accorde. Et la réalité maintenant, si on le met en perspective, c'est que, par exemple, voilà, on va prendre un exemple, l'AVS. L'AVS qui a été quand même introduit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, il me semble que c'était de l'ordre de 70 ou 80 francs par mois. Et ça permettait finalement exactement la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de payer un studio et manger des pâtes. Ça permettait aux gens de survivre. Aujourd'hui, l'AVS, c'est quoi? 2000-2500 francs. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et ça, c'est phénoménal à comprendre, parce que ça veut dire que si votre arrière-grand-mère avait mis sous le matelas 1000 francs sous forme de pièces de 5 francs, qui sont d'ailleurs identiques, hein, ce sont les mêmes pièces depuis plus de 100 ans. Alors évidemment, la nature du métal dedans a changé parce que la valeur du métal a été plus forte que la valeur faciale de la pièce. Mais néanmoins, si elle avait mis cet argent de côté à l'époque, sous cette forme physique, sous son matelas, à l'époque, ça pouvait représenter énormément d'argent, 1000 francs. Aujourd'hui, ça va représenter une semaine de vacances à Barcelone si vraiment on fait très attention. À l'époque, on aurait pu s'acheter peut-être une très jolie voiture. Aujourd'hui, on peut s'acheter un long week-end. Et donc ça, c'est vraiment ça le principe. C'est de récompenser celui qui va s'endetter parce que l'inflation va naturellement lui donner raison et l'enrichir.
Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots pourquoi le fait qu'il y ait de l'inflation encourage l'endettement ?
En fait, le concept est très simple. C'est finalement, on a une quantité d'actifs finis, ou plus ou moins finis, on ne peut pas les imprimer, on va dire, de manière extrêmement forte, contre la monnaie, finalement, ce dont quoi on le valorise, qui pour le coup est un supply infini. On n'arrête pas d'en créer. Donc forcément, quand on arrive sur une ville, par exemple, et puis qu'on parle d'appartements, d'immeubles, de maisons, il y a un supply qui est relativement fini, on en construit évidemment, mais ça nécessite de l'énergie, ça nécessite du travail. Et puis de l'autre côté, on le mesure avec une unité de mesure qu'on appelle le franc ou qu'on appelle le dollar. Et puis cette unité ENF en permanent. Donc finalement, vu que cette unité ENF, on ne mesure pas la même chose dans le temps. Donc nécessairement, quand on achète à un temps T plus quelque chose, en valeur faciale, le bien a pris énormément de valeur. Voilà. Et donc, on parle évidemment d'immobilier, mais on peut parler de tous les actifs. Quand on reprend ce qui s'est passé sur la crise de 2008, ça a été absolument phénoménal d'ailleurs ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque pour la première fois, on a commencé à injecter de manière extrêmement massive des liquidités, donc les banques centrales ont pris des rôles extrêmement importants, et puis se sont mis à ce qu'on appelle le quantitative easing, à mettre à disposition des liquidités aux banques, aux institutions financières, de manière pratiquement illimitée. L'argent est devenu gratuit. Donc, un trader, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne trade pas l'argent de la banque. Il trade sur une ligne de crédit. Donc, si l'argent est gratuit, il commence par le prendre, l'argent. Et puis, au moment de l'investir, ou de le trader, Ah, dans quoi il va le mettre en période de crise? Il va le mettre dans ce qu'on appelle les commodities, donc les matières premières. Hein. Donc, à cette époque-là, c'est là où on a vu tout ce qui était nourriture, hein, tout ce qui était blé, maïs, etc., qui a explosé en termes de prix, même le coton a explosé, etc., etc., parce que les gens, en période de crise, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se vêtir, ils ont besoin de se chauffer, etc., etc. Donc, finalement, tous ces marchés sont distordus par cette quantité d'argent infinie et illimitée, et on a l'impression finalement que ça pourrait générer de l'inflation, et c'est ce qui se passait dans le passé. Et aujourd'hui, cette inflation, on ne la voit pas dans l'économie réelle, on ne la ressent pas dans l'économie réelle, parce qu'en fait, c'est une pyramide. Il y a un robinet qui est tout en haut de la pyramide, qu'on appelle la Banque centrale, il y a quelques acteurs qui y ont accès, et puis c'est eux qui ont accès à cet argent qui a la valeur d'avant, hein, même si on en a beaucoup plus en quantité, et qui vont pouvoir le dépenser dans cette sphère financière. Et dans cette sphère financière, malheureusement, il y a très peu d'argent qui redescend dans l'économie réelle. Donc en fait, les bulles qui se créent aujourd'hui, elles se créent dans cette sphère financière. Si on regarde les bourses depuis 2008 jusqu'à avant la crise du corona, mais les bourses ont explosé. On n'a jamais eu ce qu'on appelle les all-time high. On n'a jamais été dans les plus hauts dans ces indices-là, tout simplement parce qu'on valorise ces indices avec une unité de mesure qui enfle en permanence. Demain, je mesure avec une distance, on utilise un mètre. Je peux revenir dans 100 ans, je vais mesurer la même distance entre deux murs, à moins qu'il y ait eu un tremblement de terre, mais sinon je mesure cette même distance. En revanche, quand je mesure en dollars ou en francs, malheureusement, cette mesure n'est plus la même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans.
Pour toi, c'est pas possible de changer le modèle actuel qui est intrinsèquement irresponsable et il faut donc créer une alternative.
Il faut une alternative, mais aujourd'hui, ce qui est beau avec la technologie, c'est que les gens, encore une fois, ont l'opportunité, peuvent prendre ce choix de opt-out et de vivre différemment. Ensuite, évidemment que ça implique une certaine responsabilité quand on fait ces choix-là, donc on est quelque part un peu dissident, on va à contre-courant, et donc intellectuellement, c'est pas évident pour tout le monde de faire ces choix. Donc les gens arbitrent, ils disent, voilà, aujourd'hui, moi je vois dans mes amis, dans mes amis qui sont pas très sensibles à ces questions-là, tout le monde aujourd'hui commence à se poser des questions. Dans quoi est-ce que je dois mettre mon épargne aujourd'hui? Est-ce que réellement c'est l'immobilier? Est-ce que l'immobilier, on n'est pas aujourd'hui arrivé à une décorrélation trop importante entre les revenus des gens et leur capacité à acheter et à rembourser sur des temps qui sont de plus en plus longs? Est-ce que, à l'inverse, je devrais peut-être garder quelque chose de plus liquide? Est-ce que je dois acheter de l'or? Est-ce que je dois acheter du bitcoin? Est-ce que je dois acheter des actions? Parce que les entreprises sont productives, donc c'est aussi intéressant. Voilà, donc ça c'est un peu les questions aujourd'hui, et je le sens autour de moi, ça devient des questions sociétales, les gens se les posent, hein. Ça devient vraiment, je pense qu'on est un peu à un tournant, et probablement que la crise du coronavirus va accélérer un petit peu ce tournant. Et nous aujourd'hui on n'a pas vocation à remplacer UBS, on n'a pas vocation à changer tout le système, nous on a vocation à proposer une alternative. Et évidemment qu'aujourd'hui, ce qu'on propose n'est pas sexy pour ma mère, par exemple. Ma mère est convaincue qu'UBS est la banque la plus sûre au monde. Je pourrais pas lui faire changer d'avis. Donc, de ce point de vue-là, nous, ce qu'on propose, c'est une option de opt-out de ce système. Donc, on adresse une certaine population, mais cette population, aujourd'hui, on voit qu'elle grandit. On voit que de plus en plus de gens s'éduquent sur le sujet. Et nous, on pense qu'on a une place, parmi d'autres, d'exister dans une proposition de valeur différente que celle qui est aujourd'hui l'unique proposition de valeur que l'on a lorsqu'on va dans une banque commerciale.
On a vu les problèmes que posaient l'inflation et la centralisation. Est-ce que tu peux nous expliquer la solution contraire, entre guillemets, qui serait donc la décentralisation et la concurrence des monnaies?
Alors, la concurrence des monnaies, je pense qu'elle est extrêmement saine. En revanche, pourquoi est-ce que jusqu'ici c'était très inefficace et qu'on est tous revenus dans l'histoire à essayer de centraliser les monnaies? Parce qu'effectivement, lorsqu'on a une unité de mesure commune à tout le monde, ça rend les échanges simplifiés. Aujourd'hui, avec la technologie, ces choses-là vont pouvoir être abstraites. Donc les gens vont pouvoir choisir finalement leur unité de mesure et pouvoir la dépenser dans une autre de manière complètement transparente et instantanée, sans même qu'ils aient à se poser la question de faire du change, de faire le calcul de combien vaut un franc suisse contre une lire turque ou un peso mexicain. Et puis, l'idée que ces monnaies puissent se faire concurrence, c'est pour le mieux, parce que finalement, celle qui va être la plus attractive, celle qui va correspondre le plus à ce que les gens s'en font comme une idée de bienveillance pour l'avenir, y adhérons. Et puis ensuite, chacun, encore une fois, le principe de la liberté, c'est que chacun vit dans le contrat social qu'il choisit. Celui qui a envie de vivre dans une idée plutôt très communiste, où finalement l'argent est là pour être géré, centralisé, distribué, imprimé, pourront le faire. D'autres qui auront envie de vivre dans l'inverse, de dire non, il faut qu'on ait quelque chose qui soit plutôt déflationniste dans l'idée, il faut qu'on donne une récompense à ceux qui travaillent dur, qui épargnent, et puis que l'épargne ait une vraie valeur et qu'elle soit rémunérée lorsqu'elle est prêtée, pourront aussi s'organiser sous cette forme-là. Et ensuite, chaque système doit se faire compétition dans un espace de liberté absolue.
Dans le modèle actuel, avec des banques centrales, le fait que les citoyens croient à la monnaie, c'est parce qu'ils ont confiance, entre guillemets, en l'État qui leur garantit que cet argent vaut quelque chose. Comment ça se passe dans un système décentralisé? Qui est-ce qui remplit ce rôle du tiers de confiance? Et dans ce cadre, tu as évoqué avant la technologie de la blockchain. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est?
C'est évidemment un challenge, parce que la technologie, ça reste quelque chose d'abstrait. Mais ce qui est très beau finalement dans cette technologie qu'on appelle la blockchain, c'est qu'on n'a plus besoin de tiers de confiance pour amener de la confiance. Et donc finalement, c'est des maths. À partir du moment où on a suffisamment confiance dans le fait que la cryptographie fonctionne, alors les règles initiales peuvent être garanties parce que finalement elles sont amenées par un réseau qui n'est pas centralisé, mais qui est juste un réseau, et donc finalement qui fonctionnera toujours tel qu'il a été défini à l'origine. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la technologie de la blockchain, c'est vraiment de dire aux gens, mais maintenant, il n'y a plus besoin d'acteurs centraux, il n'y a plus besoin de tiers de confiance pour s'assurer que les choses fonctionneront telles qu'elles ont été définies. Le problème du tiers de confiance, c'est que le tiers de fonds de confiance, il peut évoluer dans le temps. Lui-même, il peut avoir défini des règles au démarrage, et puis les changer en cours de route. Et puis ensuite, finalement, on devient esclave de ce tiers de confiance à qui on a tout donné et puis qui est le seul à pouvoir décider de ce qui est juste pour tout le monde.
Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer.
Voilà, c'est la fin de cette première série de rencontres de personnes qui défendent la liberté au jour le jour. Si vous êtes intéressé par d'autres interviews ou par d'autres podcasts, vous pouvez vous rendre sur notre site internet en tout temps. Et on vous dit à la prochaine. C'était Diego, Jérémy et moi-même, Nicolas.